Les pauvres poussés du centre-ville vers la périphérie, ce n'est pas une nouveauté en France, ni ailleurs d'ailleurs. Des faubourgs décrits par Céline à la banlieue rouge d'après-guerre, de l'époque des guinguettes au bord de l'eau à celle des quartiers sensibles, il y a beau temps que les centres-villes appartiennent aux nantis. À Paris, depuis quelques décennies, on nettoie Clignancourt, on aménage Belleville. On pousse même désormais les habitants de Montreuil, récemment encore habitable à peu de frais, vers des banlieues plus lointaines. Et c'est aussi le cas à Marseille. Là-bas, si j'y suis, on a fait le sujet de plusieurs émissions. C'est le cas au Havre aussi, bien sûr. On détruit, on soi-disant réhabilite, on embourgeoise les anciens quartiers populaires. Quand l'heure se fait traiter de Saint-Nicolas, les habitants et les historiens se rebiffent. Du logement, il sera beaucoup question cette saison sur Radio Apple Pie. On avait évoqué le quartier de l'heure, justement, avec notre ami Christian Affagard. Le logement précaire de l'après-guerre, après les bombardements, avec l'association Gonfrovillaise des Camps Cigarettes. Aujourd'hui, pour cette première émission de la série Logement, en public, au camping de Mangeon menacé de fermeture, c'est de tentes, de mobilhomes, de chalets qu'on va parler. C'est d'étudiants, de travailleurs saisonniers, de touristes aux revenus modestes et des employés, bien sûr. Mais nous recevons de nombreux intervenants pour traiter ces différents sujets. Alors, ne tardons pas à leur donner la parole. Radio Apple Pie est minimé. Émi public numéro 96, ça tourne.
Donc nous voici dans le café du camping de la forêt de Mangeon, lieu inhabituel et jour inhabituel pour situation inhabituelle mais surtout intolérable. Et oui, journée porte ouverte pour protester contre la fermeture imposée par la municipalité programmée pour le 31 décembre. L'historique du camping, la gestion par Frédéric et ses employés, le contrat avec la ville, tout cela est et sera détaillé sur le site de Radio Apple Pie. Aujourd'hui, c'est pour parler de la solidarité active autour du camping avec des associations, des musiciens, des travailleurs résidents et des salariés que nous sommes là. Et pour commencer, nous allons donner la parole à Christine, salariée du camping de Mangeon.
Bonjour Christine.
Bonjour.
Bonjour. Christine, tout d'abord, on voudrait savoir depuis combien de temps tu es salariée du camping et quelle est ta fonction dans le camping ?
Donc je suis salariée depuis 98, depuis octobre 98. Dans le camping, avant tout, je m'occupe de l'accueil, du bar et de la restauration. Et ensuite, sachant que dans l'hôtellerie du plein air, on doit tous être polyvalents. Donc l'entretien des sanitaires, les poubelles, les vélos, enfin, on se relie tous pour le travail. Voilà.
Donc en ce qui te concerne cette annonce d'une mort programmée, tu l'as prise comme tout le monde en septembre ?
Oui, tout à fait.
Ça.
Oui.
Et qu'est-ce que ça implique par rapport à ton emploi et à ton avenir ?
Par rapport à mon emploi, déjà, je vais le perdre, vu que tout s'arrête au 31 décembre. À mon avenir, pour le moment, c'est un point d'interrogation, parce qu'avec mon collègue, on a été reçus à la ville, ils ont nos CV, on est dans l'attente de savoir si on va avoir un emploi à la ville ou pas.
Oui, d'accord, c'est le point d'interrogation
voilà,
pour l'instant.
Voilà, tout à fait.
Et en fait, vous étiez salarié
De la SARL Chlorophylle.
D'accord, qui est la gestion du camping, donc
voilà,
par Frédéric
Gerbert.
D'accord. Alors, on a vu qu'on a participé à quelques assemblées générales ici contre la fermeture du camping. Hein. Certaines personnes de Radio Apple Pie sont venues. On a pu voir qu'il y avait un soutien assez large dont on va parler aujourd'hui avec Attaque, Agir contre le chômage, avec les Verts, avec les auditeurs modestes et géniaux de la Basse, si j'y suis, Femmes solidaires. J'en oublie, on recitera tout le monde un petit peu au fur et à mesure. On donnera la parole à certains. On a pu voir que les résidents, les travailleurs mobiles étaient impliqués aussi, et les employés, donc dont toi. Je suppose, et on a l'impression de sentir, que ce n'est pas uniquement pour la perte d'un emploi, mais parce qu'il y avait une équipe chaleureuse et quelque chose qui se passait ici d'assez plaisant.
Il y a une ambiance ici avant tout. C'est un lieu familial. C'est beaucoup plus qu'un camping, en fait, parce qu'il y a les gens qui sont là sur des longues périodes, avec qui on sympathise, avec qui on crée des liens qui sont assez importants. Et c'est, enfin moi, c'est ce que je dis depuis le début, depuis qu'on sait que ça a fermé, c'est que c'est la fin d'une vie quand même. C'est un petit village, le camping. Il n'y a pas que les clients du camping, il y a aussi les associations, parce qu'il y a Lydie qui est là à côté de moi, et qui ont fait des repas, mais qui ont fait aussi des choses. Donc
c'est vrai qu'on n'a pas précisé, déjà autour de la table, on leur donnera la parole plus largement tout à l'heure, il y a Fabienne d'Agir contre le chômage, et Lydie qui est professeure de yoga et qui travaille ici depuis un moment. Bon, on reviendra sur cette activité. Peut-être Christine, toi, puisque tu es là depuis longtemps, justement, tu peux nous expliquer. Donc il y a ici, évidemment, c'est un camping dans une ville balnéaire, donc il y a des touristes qui ne sont pas forcément des touristes qui ont de grands revenus. Il y a, tu me diras au fur et à mesure, si on commet des erreurs, parfois des étudiants en attente de logement, parce qu'on sait que le logement, ça peut être très précaire également pour les étudiants, malheureusement. Et il y a donc des travailleurs saisonniers. Peut-être tu peux nous expliquer à quelle période les gens sont plutôt là, combien de temps ils restent et pourquoi ils choisissent d'habiter dans un camping.
Par rapport aux travailleurs ?
Par exemple, pour commencer.
Les gens, en fait, ils sont là quasiment toute l'année. C'est pour ça qu'on est ouvert. Après, c'est suivant les périodes de contrat qu'ils ont sur Le Havre ou dans la région. Parce qu'ils venaient aussi au camping, mais il y en avait certains qui ne travaillaient pas qu'au Havre. Donc, c'est important de le dire.
D'accord. Donc, c'est des gens qui travaillent sur la zone industrielle
plus largement.
Ils
sont missionnés, voilà. Ils ont une date à faire. Ils sont là entre 2, 6, 7 mois, 1 an, 2 ans. Ça dépend.
Et à ton avis, c'est parce que ça coûte très cher d'avoir un logement. Enfin, il faut forcément des cautions, il faut payer beaucoup de loyers, ou c'est pour une ambiance
Non, ce qu'ils aiment dans le camping, c'est qu'ils sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils ont leur caravane. Par rapport à l'hôtel, ils rentrent quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent à manger, ils reçoivent qui ils veulent.
Voilà. D'accord, oui, donc c'est...
C'est une liberté.
Voilà, c'est quelque chose qui est important, c'est pas seulement une histoire d'argent, d'économie, c'est aussi une manière
aussi,
de vivre.
Aussi, pour certains aussi, quoi.
Parce que c'est vrai, bon, j'ai cité, alors, cette fois-ci, c'est peut-être parce qu'on a reçu récemment le repère de la BACJC du Havre, donc je reviens un petit peu, c'est vrai que je vous renvoie à des émissions de la BACJC, émission de France Inter, bien connue. Bon, l'avantage, c'est qu'eux aussi, comme nous, ils ont des émissions en ligne qu'on peut écouter à tout moment. J'ai cité tout à l'heure donc les problèmes de logement à Marseille qu'ils ont beaucoup évoqués, et il y a eu aussi des émissions sur le camping, sur les résidents en camping. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure avec des résidents d'un camping non loin du Havre aussi, qui est Saint-Jouin. Voilà, parce qu'il y a toute une problématique autour de ça, qui est effectivement une manière de vivre, quoi. C'est pas seulement ici à Monjon, apparemment, c'est façon...
C'est général,
ouais. Voilà, voilà. Et qui, par contre, est très menacée partout, quoi. Pas uniquement à Monjon ou à Saint-Jouin-Bruneval, mais un petit peu partout en France.
Oui, Fabienne, tu voulais rajouter quelque chose.
Je voulais rebondir justement sur cette histoire de problèmes qui se développent de plus en plus dans les campings. À Saint-Jouin, c'est encore un autre cas de figure, parce que c'est un camping saisonnier, en fait, qui devrait être fermé à la période hivernale, et dans lequel des gens habitent, pour le coup, à l'année, donc en position irrégulière, c'est vrai, et illégale, mais certains sont dans cette position depuis 15 ans. Hein. Et donc, c'est des gens qui habitent à l'année. Certains par choix, ils ont vendu leur maison et ils sont venus y habiter, d'autres par non-choix, en fait, parce qu'ils se sont fait expulser. Et par rapport à ce qui se passe en ce moment sur tout le terrain du logement mobile, il y a une association qui s'appelle HALEM, H-A-L-E-M, qui s'est créée il y a à peu près un an et demi, et qui est vraiment très, très militante et très revendicative, et qui milite pour le droit au logement mobile, et sous toutes ses formes, et partout, quoi.
On vous conseille d'aller voir sur leur site, il y aura le lien sur le nôtre en tout cas, ça se trouve assez facilement, HALEM. Et on a pu voir en effet qu'ils parlaient déjà de Monjon et de la fermeture du camping ici depuis un certain temps. Donc c'est bien que s'il y a cette problématique au niveau national.
Et toi, Christine, en tant que salariée, comment est-ce que tu as ressenti la mobilisation par rapport à la fermeture du camping, le collectif qui s'est créé, je dirais un peu spontanément, collectif de soutien? Comment toi, en tant que salarié, tu l'as vécu? Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait cette mobilisation-là, ou est-ce que tu t'es dit voilà, ça y est, le camping va fermer, on s'arrête là, et puis personne ne va rien avoir en fait?
Non, j'étais agréablement surprise, parce qu'en fait, on est quand même dans une forêt assez éloignée, oui et non, de la ville, mais quand on parle du camping au Havre, il y en a très peu qui savent qu'il y a un camping au Havre. Donc, agréablement surprise, quoi. Par tous les gens qui se sont greffés autour.
Ouais, parce qu'en fait,
parce que c'est pas que des gens qui venaient au camping avant.
Voilà. peut-être par rapport à l'historique de cette solidarité, hein, puisqu'on a dit, bon, bah, toute l'historique du camping, on le mettra voilà, par écrit sur notre site, mais par rapport à l'historique de la mobilisation elle-même, il y a eu pas mal d'articles dans le journal, ça je suppose que c'est à votre initiative, vous ici au camping, ou ça c'est...
Oui, entre autres, oui.
D'accord, bon, il y a eu des... Bon, les Havrais, pour ceux qui n'étaient pas au courant de l'existence du camping et encore moins de sa fermeture annoncée donc pour fin décembre, ont pu voir des articles de presse. À partir de ce moment-là, on a vu aussi qu'il y avait eu quelques courriers de lecteurs, justement, qui sympathisaient voilà, avec vous. Mm-hmm. Et puis donc, quand a eu lieu peut-être la première assemblée générale, comment ça s'est concrétisé?
Alors, c'est pas des assemblées générales.
D'accord, autant pour moi.
Si bien de le préciser. C'est des réunions, en fait, de soutien par rapport à la fermeture, où les gens qui veulent nous soutenir, nous aider et participer aux actions qu'on mène viennent assister aux réunions et nous proposent ce qu'ils peuvent nous aider, en fait.
D'accord. Il y en a eu combien de réunions de ce type 5 ou 6, plus
Oui, à peu près, oui. À peu près, oui.
Chaque fois il y avait pas mal de monde, enfin je sais pas, moi je suis venue une fois personnellement, j'ai trouvé que c'était que le café où on se trouve aujourd'hui là était bien rempli.
Bon, en fait il faut dire qu'il y a quand même pas mal de monde qui passe au camping sur l'année, en fait, parce qu'il y a des manifestations qui se font ici, donc les gens entendent quand même parler du camping.
Ouais, en fait c'est pas uniquement un lieu de
camping,
logement,
voilà.
c'est pas que ça, et on va en parler après aussi avec Lydie et avec Michel. Ce sont des associations qui ont un peu élu domicile ici pour leurs activités.
Entre autres, oui, où on a beaucoup d'associations qui font leur assemblée générale ici, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils prennent les salles et puis en même temps on leur fait leur repas.
Ah oui, d'accord. Donc c'est vrai qu'il y a, oui, il y a un côté superstructure qui est pratique. Bon, il faut dire que le cadre est quand même très agréable. On n'a pas précisé. On a quand même dit que c'était dans une forêt, mais c'est assez beau. C'est pas si loin que ça quand même du centre. C'est
bah non, c'est
relativement
c'est dans la ville,
accessible. Et voilà, oui, cet aspect-là. Donc bon, on dira, hein, Lydie tout à l'heure nous parlera de ses activités, mais peut-être tu peux développer les autres, je ne sais pas, il y a déjà le camping lui-même organise des activités sportives. Peut-être tu peux nous parler un petit peu de ça, Christine.
Oui, alors il y a VTT. C'est mon collègue serait mieux en parler, enfin je ne peux pas parler de son travail à sa place.
Tesser,
ben
peut-être
voilà.
Qu'il pourra nous en parler.
Ou Frédéric,
voilà. Je t'en prie.
Oui. Moi, je ne voulais pas trop participer parce que je laisse parler le collectif qui s'est organisé autour du camping. Quoi, hein. Et, mais par contre, je peux quand même parler de ce qui se faisait ici.
Volontiers.
Donc, tout au long de l'année, en fait, il y a une association et une entreprise individuelle qui ont élu domicile au camping, c'est vrai, pour exercer leurs activités, qui faisaient partie du programme d'animation, du projet de programme d'animation du camping. Mais autour de ça, il y a d'autres associations qui sont venues effectivement au camping et qui nous ont aidés à animer le site. Alors, on parlait là tout à l'heure de la personne qui est derrière et qui s'occupe de la musique irlandaise, qui venait une fois par mois nous faire des petits bœufs de musique irlandaise, qui plaisait beaucoup à toutes les personnes qui sont hébergées au camping. Et il y avait des activités sportives, parce qu'on a un parc de location de vélos, de 100 vélos, avec un animateur sportif qui est embauché à l'année au camping, et qui a toujours développé ses activités ici. Donc, c'était randonnée, initiation VTT, balade... découverte de la région, etc. Beaucoup d'initiations, en tout cas. Voilà, quoi. Il y a aussi d'autres personnes qui avaient l'habitude de venir ici, genre le Hack Triathlon, qui organisait une course par an pour les enfants, donc qui siégeaient au camping juste pour cette manifestation-là, et qui repartaient. Et des associations comme ça, ou entreprises, on en a accueilli beaucoup, qui ont organisé des manifestations qui profitaient et aux Havrais et aux campeurs. Voilà.
Donc oui, ce qui est effectivement assez triste dans ce que tu viens de dire, c'est que forcément tu as parlé au passé, parce qu'on parle de cette mobilisation. Aujourd'hui, c'est encore une journée de mobilisation, puisque c'est la journée porte ouverte. C'est pour ça qu'on a tenu à faire l'émission là dans ce cadre. Mais apparemment, malgré les actions, malgré la pétition sur laquelle on va revenir avec Christine ou Frédéric, comme vous voulez, malgré une présence à un conseil municipal, malgré différentes actions, apparemment, il semble bien qu'effectivement, le 31 décembre, ça va vraiment fermer.
Oui, c'est la décision municipale qui a été prise.
D'accord.
Ferme et définitive.
Bon, sur la pétition quand même, malgré tout, même si c'est tout à fait négatif et triste de dire que voilà, il n'y a plus trop de possibilités, vous savez combien ça a recueilli de signatures ou c'est trop difficile à comptabiliser?
3000.
Ouais, pour le moment, on est peut-être à 3000, mais là, on n'a pas encore tout comptabilisé et on n'a pas eu encore tous les retours. C'est assez long, hein, mais et je précise quand même que ce ne sont que des signatures manuscrites.
Oui, c'est ça.
Hein, on ne parle pas du tout d'Internet.
Voilà, parce qu'il y a aussi une pétition en ligne et je suppose qu'elle est...
Oui, mais ça, on n'en parle pas, c'est uniquement manuscrit.
D'accord. Bah, c'est beaucoup, enfin, je pense que ça prouve quand même un besoin des gens.
Oui, parce qu'il y a une vraie mobilisation qui se fait autour de ça. Étrangement, il y a beaucoup de gens qui se sensibilisent et parce que c'est malgré tout un mode d'hébergement qu'on ne peut pas nier, quoi.
On va redonner la parole à Christine, peut-être pour la suite. Justement, pour toi, Christine, quelle va être la suite? Tu disais tout à l'heure que ton avenir était
c'est un point d'interrogation pour le moment.
Est-ce que tu es déjà dans une projection, je dirais, de souhait pour passer à autre chose, ou est-ce que tu dis que non, définitivement, là, jusqu'au 31 décembre, de toute façon, tu es au camping et...
Pour le moment, je suis au camping jusqu'au 31 décembre.
Donc la suite, pour l'instant, tu ne l'envisages pas. Voilà. Je crois qu'il y a ton collègue qui est en train...
Il y a Noémie aussi qui vient d'arriver. qui est au camping.
Noémie, oui, qui est résidente au camping, qui vient d'arriver. On va lui laisser le temps d'arriver et de s'installer avant de lui sauter dessus pour lui poser des questions.
Dans ce cas-là, on va peut-être écouter un premier morceau qui sera représentatif aussi de ce qui se passe au camping, puisque c'est quelqu'un, je crois, donc Job.
C'est le fils d'une des personnes de la musique celtique. Qui l'année dernière, ou il y a 2 ans, en fait, on organisait des soirées barbecue qui venaient jouer devant nos clients pendant les barbecues, et qui aujourd'hui s'est proposé de venir jouer ce matin pour nous soutenir, et qui vend aussi ses CD de musique. Donc il les vend 7 €, il y a 5 € pour son groupe et 2 € pour le camping. Voilà. Ah,
sympa.
Donc, on le remercie beaucoup.
On écoute un premier morceau.
Cette ficelle, cette mèche qui s'est allumée. La naissance est une étincelle. On dit prêt, feu, partez. Au bout du fil, une demoiselle. Le cœur prompt, l'estomac nourri. D'abord tendu, puis contracté. Dans son corps, un cœur étranger. À peine le temps. S'attacher, le cordon est déjà coupé. Reste ce corps tout délacé, il se lasse dans la scie.
vie de liberté, suspendu au-dessus du vide.
Il semait des cornes, la route, premier corps, des yeux, cette option pour monter combat cette miséricorde. Il s'attachait à cette idée, c'était tendu sur le fissure à toi. Combat la justice, c'est d'abord accroché. Elle se n'étend pas la vie, mais la vie tient qu'à un fil. Voyons que l'aventure file est un mauvais coton. C'est le sens que vous lui donnez. Tout au long de cette ficelle, retenez que ses bons côtés. Regardez feu cette ficelle, lentement consumée.
On écoutait Manipuler de Job, donc on vous rappelle que cet artiste a eu la gentillesse de donner 2 euros sur son CD qui vend 7 euros pour soutenir le camping. Là tout de suite, et parce qu'elle va être très prise après, on va passer la parole à Fabienne d'Assez, Agir contre le chômage, qui s'est, association qui s'est beaucoup impliquée dans la mobilisation contre la fermeture du camping ici. Et bah, peut-être je vais te demander, Fabienne, dans un premier temps, comment vous êtes mis en relation avec le camping et quelles activités vous avez pu y avoir ici.
Bon, alors d'abord, quand même, à Assez, il y a pas mal de vieux havrés qui connaissaient l'histoire du camping de la forêt de Monjon. Donc, quand on a eu à organiser les journées d'été d'Assez, ça a été notre tour cette année, ça s'est déroulé au Havre. C'est vrai qu'on a pensé très vite à les organiser au camping, ça a duré 3 jours. Il nous fallait un moyen d'hébergement aussi pour accueillir les gens qui venaient, qui de Bordeaux, qui de, je sais plus, enfin d'un peu partout, Clermont, Quimper, je crois, enfin, les différentes assos d'Assez. Et on avait besoin d'un lieu où on pouvait se réunir, éventuellement continuer à discuter le soir autour d'un verre. Et c'est vrai que le camping, ça a été génial, parce que on a pu organiser nos réunions dans les salles, on a fait venir un groupe le soir qui a fait un spectacle en plein air, donc les gens du camping, il y a quelques couples, très peu, ils n'osaient pas trop, mais qui sont venus danser avec nous, mais ça a été vraiment très sympa, et tout ça pour un tarif dérisoire, parce que dans une association de chômeurs, évidemment, c'est super important d'avoir un hébergement à un moindre coût. Et donc, ça, c'était parfait, c'était la solution idéale, sans compter qu'en plus, il y a beaucoup de militants d'Assez qui n'ont pas forcément de bagnole, donc la gare étant pas loin, enfin, ça a été idéal à tous les points de vue, bien situé, pas cher, convivial, sympa, parfait.
Voilà, bon, d'autant plus triste. Évidemment, ce qu'on voulait demander aussi, c'est que c'est pas uniquement parce que vous avez l'occasion d'organiser cette université d'été ici, que vous avez trouvé le lieu et l'équipe sympa, que vous êtes joint à la mobilisation. Je pense qu'agir contre le chômage, on peut le répéter, on a déjà parlé, hein, les audinotes fidèles de Radio Apple Pie le savent, mais enfin bon, ne se bat pas uniquement pour les droits des chômeurs et pour l'emploi et aussi pour toute une réflexion là-dessus, mais aussi sur diverses questions comme le logement.
Bah, agir contre le chômage, c'est agir ensemble contre le chômage et contre la précarité. La précarité, elle, c'est pas seulement au niveau de l'emploi, ça va être aussi évidemment la question du logement. Ça peut être aussi la question des sans-papiers. Ce qui fait qu'à Assez, c'est vrai qu'on a, on a une espèce de...
De pieuvre.
Ouais, bah, en fait, c'est vrai qu'on est très vite concerné par tout un tas de problèmes, parce que la précarité, c'est celle-là. C'est soit celle de ne pas avoir de papier, soit celle de ne pas avoir de logement, celle de ne pas avoir d'emploi, ou d'en avoir un précaire, justement, c'est-à-dire CDD de merde, pour une paye de merde et pour un temps hyper court. Donc la question du logement, ouais, bien sûr, elle nous intéresse. Il y a eu Assez, il y a eu des mobilisations à Assez contre les coupures d'eau il y a quelques années de ça. C'était sur Montgaillard. On est allé rencontrer les gens du camping de Saint-Jouin aussi, même si la situation n'est pas identique à celle du camping de Monjon. Mais c'est vrai qu'il y a des ramifications, il y a des liens, il y a des choses qui peuvent bouger ensemble et qui doivent bouger ensemble. On avait participé, on avait diffé lors de la destruction de la tour Komarov l'année dernière, il y a deux ans, je me souviens plus. L'année dernière. Et on était allé diffé dans les HLM, dans les bars. Enfin, la question du logement, c'est surtout en ce moment, quoi. C'est vrai que ça devient des thèmes majeurs.
C'est des choses donc auxquelles Assez réfléchit au niveau national, auxquelles vous réfléchissez ici localement. Et je pense que bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler ensemble, de, parce que bon, évidemment il y a les problèmes ici, mais voilà. Il y a...
Nous, ça nous intéresse et sur la question du logement et sur la question aussi des travailleurs mobiles qui sont en CDD. Enfin, ça va de pair, quoi. À une époque où on demande de plus en plus aux gens d'accepter des travails mobiles, loin de leur domicile, il faut qu'à un moment, on s'adapte et qu'on leur offre aussi des conditions d'hébergement qui aillent dans ce sens, quoi. Mm. Un type qui vient pour 3 mois, il ne va pas prendre un appart pour 3 mois. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens.
Par rapport à ça, ce n'est pas une question piège. Hein. Je sais que tu as été très occupée. Je ne sais pas si tu pourras me répondre par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une alternative pour les travailleurs qui, jusqu'à présent, résidaient régulièrement ici? Est-ce que la municipalité propose quelque chose? Est-ce qu'on les laisse face à leur propre démerde?
Je ne sais pas trop. Faudrait demander. Ouais, c'est plutôt à Noémie. Je sais que Olivier cherche un logement. Mais c'est vrai que pour les autres, je ne sais pas trop.
On verra plutôt après avec plutôt les voir travailleurs avec Noémie, résidents.
D'accord, qui sera à notre micro d'ici une petite demi-heure, on va dire, si tu le veux bien. Bon, on est toujours autour de la table avec Fabienne, Lydie qui est professeure de yoga, Michel pour la musique irlandaise, avec qui on va parler depuis le temps qu'on le promet. Mais il y a quelqu'un qui a proposé de nous dire quelques mots sur son engagement contre la fermeture du camping. C'est Ginette qui est parmi nous.
Oui, voilà. Ça fait 25 ans que je viens régulièrement par ici. Je promène mes chiens et voilà. J'ai donc vu tout le début de ça et... contrairement à ce que pensait Christine tout à l'heure, que je connais bien d'ailleurs, parce que Christine, c'est l'âme du camping, hein, faut bien le dire. Et beaucoup de gens connaissent quand même. Moi, j'ai pris des listes, j'ai pas eu de mal du tout à les faire signer. Il suffit d'expliquer aux gens, et les gens sont vraiment contre cette décision qui est anormale. Moi, je n'ai rien contre les joueurs de boules, mais je trouve qu'avec le bâtiment qui vient d'être construit, qui a dû coûter très cher, je dis que c'est une provocation. C'est une provocation de voir ce bâtiment qui va servir, tant mieux, c'est bien, et de penser que pendant ce temps-là, eh bien, on va fermer le camping. Et ce que je voudrais savoir aussi, je sais que Frédéric a fait beaucoup de demandes de travaux quand il en était absolument indispensable. Et je voudrais savoir pourquoi la municipalité n'a jamais répondu à ces demandes de travaux. On a laissé pourrir volontairement ce camping. Et j'estime que c'est un scandale. Ça... C'est la raison pour laquelle je me suis joint aujourd'hui à vous pour dire que vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas là tout de suite, mais qui pensent absolument comme moi. Je suis un peu leur porte-parole, des non-résidents. Et puis, moi qui viens tous les jours, maintenant, je ne prends plus mon café puisque c'est fermé le matin, mais on fait des connaissances, on discute avec tous les gens qui sont là de tous azimuts, et puis on fait des connaissances très intéressantes. On parle avec des Anglais, des Allemands, je trouve ça très, très... C'est enrichissant, en plus.
Oui, bien sûr.
Alors, là, je vous dis... C'est un scandale, c'est une provocation. Puis si les élus désirent garder leur place aux prochaines élections, j'ai intérêt à changer de direction, disons. Parce qu'il pourrait peut-être y avoir des surprises. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Merci beaucoup.
Merci Ginette.
Ouais. Pour rebondir sur ce que disait Ginette, qui disait qu'on avait laissé le camping se dégrader, quand on est allé d'Iffé à la Tour Komarov, par exemple, on avait fait Montgaillard, on avait fait Cocry. C'était incroyable. Je veux dire, il n'y a rien de mieux pour dire qu'il faut sauter un immeuble parce qu'il est dans des conditions vétustes que de le laisser pourrir, alors même que les locataires payent des charges qui sont censées financer les travaux de réhabilitation et de rénovation. Mmh. Je veux dire, c'est exactement ce qui s'est passé sur Montgaillard et sur Cocry. On laisse bien pourrir le HLM, le fric qui est destiné à la rénovation et que les locataires payent tous les mois, on le met de côté. Et puis quand le truc s'est bien dégradé, qu'il est bien pourri, on dit mais c'est insalubre et on le fait sauter. Mmh. Je veux dire,
Oui, c'est une vieille tactique de promoteur immobilier. Ouais, ouais. Et ce qui est assez choquant, pour ne
quand
pas dire dégueulasse,
chien,
c'est que les élus... hélas, pas tous, mais enfin, souvent, ici et là, qu'ils soient municipaux,
c'est super
relaient ce genre d'attitude.
Tu laisses le truc bien pourrir, et puis après, tu dis qu'il est insalubre et qu'il faut le fermer.
Bien sûr. On a même entendu parler dans certaines villes, je ne sais pas si ça a été le cas au Havre, d'endroits donc qui se dégradaient de plus en plus, où on laissait s'installer des squatteurs, voire des dealers, pour pouvoir après dire, vous voyez bien, c'est dans votre propre intérêt qu'on vous vire, messieurs, dames, parce que vous ne pouvez pas rester habité là.
Ouais. Moi, je me souviens d'un unique locataire qui était tout seul à Montgaillard il y a 2 ans, enfin un an et demi, il était tout seul dans sa barre à Montgaillard, tu vois, tout autour, les portes étaient soudées, blindées, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus d'électricité, il y avait tous les jeunes qui commençaient à faire la récup de cuivre, de carrelage, tout autour, dans les apparts, autour, il était tout seul avec sa parabole, ses petits rideaux et ses petits... C'était déprimant au possible, forcément, il s'est tiré, quoi. Mmh.
On connaît le coup de chien, si on avait eu un peu plus d'à-propos, et le CD aussi, on aurait pu passer une chanson, parce que ça remonte déjà il y a longtemps, qui parlait d'un petit jardin qui a fini par bien sentir le métropolitain, là, comme quoi, au début il y a une petite maison, et puis après il y a des grands immeubles autour, puis après, bon, il n'y a plus qu'à partir. Merci Fabienne. Alors, Lydie ou Michel, depuis le temps qu'on vous annonce, qui veut prendre la parole en premier?
Bonsoir.
Michel,
oui. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi je pratique la musique irlandaise avec des copains, avec des amis. On a trouvé le camping qui nous a accueillis à bras ouverts pour nos sessions. Hein, les sessions, ce sont des regroupements de musiciens irlandais qui aiment pratiquer ce genre de musique. Donc une fois par mois, on vient ici, on invite des musiciens de la région rouennaise, de Dieppe, et on vient mettre à profit notre apprentissage de la musique pour faire profiter un maximum de Havrais, de cette ambiance de session irlandaise.
Ça existe depuis combien de temps vous faisiez ces sessions ici?
Ça va faire trois ans que l'on vient. Chaque premier vendredi de chaque mois, on vient ici à partir de 21h pratiquer notre musique irlandaise.
Donc ça veut dire que à la fois c'est pas uniquement un lieu où vous produisez seul, mais qui génère aussi des personnes qui viennent vous voir, donc qui génère aussi de l'activité sur le camping. Ça veut dire que ça aussi, ça va s'arrêter.
Oui, tout à fait. Donc c'est d'autant plus regrettable qu'on pensait organiser au sein du camping, si vous voulez, des rassemblements un peu plus complets sous forme de stage, hein, week-end. Donc forcément, le lieu du camping est... C'est vraiment adapté pour recevoir des personnes qui veulent pratiquer, qui veulent apprendre ce genre de musique.
Donc, qu'est-ce que ça a évoqué pour vous en tant que personne, en tant que musicien, en tant que membre d'une association, la fermeture du camping?
C'est-à-dire qu'ici, c'était vraiment un lieu vraiment adapté pour nous recevoir. Hein, on ne gêne personne et c'est facile de... C'est un petit peu en retrait par rapport à la ville, donc on ne gêne personne avec ce qui est musique. Pour se garer, c'est facile. Pour trouver le lieu, c'était aussi assez facile aussi de trouver l'endroit. Donc c'est vrai qu'on perd quand même
un
pôle énorme.
Pour parler de musique plus concrètement, bon, tu m'as dit que vous n'aviez pas de CD, parce qu'effectivement, vous, c'est la musique vivante, quoi, la musique conviviale, pas forcément les enregistrements. Et justement, donc, la musique irlandaise, ça fonctionne un peu comme le jazz, c'est-à-dire qu'on... Chacun est un bon technicien, un bon musicien dans son coin, et puis après on se réunit et ça fonctionne comment? Un peu comme des impros?
Non,
quand même
pas.
Il y a des structures.
C'est structuré, il y a des morceaux qui sont vraiment... typique de traditionnel.
D'accord.
Donc pour nous, c'est de travailler individuellement son instrument, de travailler le morceau et en fin de compte de venir ici le proposer. Et c'est vraiment très convivial, c'est une musique très conviviale où chacun participe à sa mesure. Donc par moment on ralentit, vous voyez, on a une certaine un échange entre musiciens.
Et donc, vous aussi, vous êtes impliqués directement dans la mobilisation, les uns et les autres.
Forcément, à ce niveau-là, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment se retourner aujourd'hui pour avoir un local qui présente tous ses avantages.
Est-ce que vous aussi, comme des éginettes, comme la question a été posée à certains, sera posée à d'autres, à Lydie par exemple, vous avez mis la municipalité face à ses responsabilités en disant, alors qu'est-ce qu'on devient, nous, maintenant?
Tout à fait, on a mis un courrier, on a écrit à monsieur le maire, la presse a repris notre courrier également, et ça a été diffusé dans les journaux.
Et quelle a été la réponse, justement, de la municipalité?
Qui pourrait éventuellement traiter l'affaire ultérieurement. Bon, nous, ce qui nous intéresse... Nous, on prend ça comme une activité, voyez-vous. La musique irlandaise, c'est d'avant tout convivial. On ne cherche pas à avoir un profit à autre mesure. C'est vraiment un échange de musiciens. Hein, on a des modèles ici. Il y a des gens qui sont plus ou moins... impliqués, qui ont un niveau plus ou moins élevé dans ce genre de pratique. Donc on essaie de toujours s'améliorer. Voilà.
J'avais une question. Hop, j'ai passé l'appareil photo à François pour que quand même il immortalise cette table ronde dans la journée porte ouverte. C'est bien ça comme formule. Et du coup, j'ai perdu ma question. Tu en as une, Letty?
Forcément qu'on va trouver des questions. Est-ce que par rapport aux personnes qui sont impliquées dans votre groupe de musiciens et les personnes que ça a généré en tant que spectateurs, elles se sont mobilisées aussi par rapport au collectif de soutien?
Tout le monde est impliqué.
Quel genre d'action vous avez pu faire, par exemple, avec votre groupe?
Du panneautage dans la ville. Donc j'ai pris du temps pour coller sur des cartons, des affichettes, et puis les placarder, forcément. Hein, et puis au niveau des pétitions aussi, faire remplir des pétitions, d'en parler aux uns et aux autres.
Et quelles ont été les réactions des gens autour de vous par rapport à cette fermeture?
Ils sont un petit peu interloqués. Les personnes sont peu nombreuses à connaître justement ces regroupements de sessions ici au niveau de la musique. Mais par contre, c'est vrai que on a des remontées au niveau de la disparition du camping. Hein. Les gens se demandent, se disent « Ah bon, il va fermer ?» Chacun s'étonne quand même. Hein. Je voudrais ajouter quelque chose aussi, c'est que je suis un voyageur cycliste. Donc, je fais des grands parcours. Je suis allé jusqu'à Moscou en vélo. Donc, je trouve un peu regrettable la fermeture du camping en tant que cycliste, parce que ici, c'est quand même un lieu d'une plaque tournante sur l'Angleterre, sur l'Irlande. Et pour un cycliste, c'est vraiment un point de repos, un point d'attache de venir dans un camping. Avant de traverser, avant de prendre le car ferry. On a toujours un moment quand même où il faut pouvoir se retourner. Moi, j'habite au Havre, je n'en profite pas. Mais par contre, je pense à la personne qui est en Normandie ou qui est plus au sud. Quand il vient pour prendre le car ferry, il a un point d'attache sur le camping. Et de poser sa tente pour le lendemain prendre le car ferry, c'est quand même un confort pour lui.
Tu fais bien de souligner un manque de plus. En fait, j'ai retrouvé, c'était pas vraiment une question, je voulais souligner, c'est vrai qu'au fur et à mesure de vos interventions, ça m'est venu que ce qui est triste, c'est ça, c'est que des alternatives, peut-être chacun retrouvera, on ose l'espérer du moins, que ce soit les travailleurs, on en parlera avec Noémie, que ce soit les employés, que ce soit différentes associations, mais de toute façon, ça sera éclaté, quoi. Chaque fois qu'un lieu comme ça, collectif, ferme, effectivement, ce qui est triste, c'est qu'il y aura une perte d'échange. Plus difficile, je suppose, pour vous les uns les autres de rester en contact.
D'autant plus qu'ici, on est quand même sur la transversale verte. Ce qu'on appelle la transversale, c'est une route, un circuit, si vous voulez, qui traversera l'Europe, parce que tout n'est pas encore élaboré à ce niveau-là, mais qui permettra aux cyclistes de traverser toute l'Europe. Donc ici, on est sur le parcours, on est sur le chemin. Donc c'est quand même aberrant d'enlever ce camping-là aussi, c'est une raison.
Merci Michel, tu restes autour de la table et tu interviens quand tu veux, si on a oublié quelque chose. On va passer la parole à Lydie. Alors encore un cas de figure différent, bonjour.
Bonjour.
Donc Lydie, qui est professeure de yoga et qui en fait donne ses cours ici.
Au camping.
Au camping. Alors depuis combien de temps tu es ici en fait au camping pour donner tes cours?
Alors depuis 2001, donc je suis installée ici, au début en tant qu'association, et ensuite depuis 2003 en tant qu'indépendante. C'est-à-dire qu'ayant trouvé ce lieu et étant accueillie aussi très généreusement par Frédéric, mon activité s'est développée et j'étais bénévole avant, donc j'ai décidé de gagner ma vie aussi, puisque j'étais salariée ailleurs, et donc de devenir indépendante et de développer mon activité ici.
Et comment tu as rencontré le camping? Comment t'es venue l'idée de t'installer pour tes cours dans la forêt de Montjean?
Alors, en fait, moi j'enseigne depuis très longtemps, donc j'ai fait beaucoup d'endroits au Havre, des endroits qui n'étaient pas du tout adaptés. Et puis, j'ai connu Frédéric et le camping par ma sœur, quelqu'un de ma famille, qui louait des vélos, puisque Frédéric louait aussi des vélos. Donc, on avait un lien comme ça, ponctuel depuis des années. Et à l'époque où moi, je voulais regrouper tous mes cours, parce que j'enseignais dans différents endroits, différentes structures, ma sœur donc m'a proposé de rencontrer Frédéric et de voir si ici il y avait possibilité de d'établir mes cours, voilà.
Donc tu as été bien accueillie, et est-ce que c'était facile pour tes élèves de venir ici pratiquer?
Ça a été très très surprenant en fait, parce que c'était un petit peu un point d'interrogation de savoir si les élèves allaient suivre, hein, du fait qu'il n'y avait pas d'auto, de bus, hein, puisque ça a été aussi une demande qu'on avait faite à une époque, peut-être d'une navette possible, ce qui aurait été quand même agréable pour le camping et pour les campeurs aussi. Et en fait, ça s'est quand même très bien organisé, parce que les gens se sont organisés en covoiturage. D'ailleurs, à ce propos, le camping accueillait aussi et accueille toujours des stages organisés par le CCAS, donc de la ville. Et même ces personnes qui sont des personnes âgées, donc pas que des jeunes, hein, qui prennent leur sac à dos et qui arrivent ici à pied, elles se sont organisées en covoiturage. Il n'y a jamais eu de problème en 6 ans. Pratiquement tout le monde est venu ici.
Ouais, c'est assez formidable, parce qu'on ne cesse de découvrir, hein, au fur et à mesure, en vous écoutant, tout ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a un aspect quand même solidaire, écologiste. C'est vraiment...
Alors, au niveau de ton activité du yoga, ça représente... Enfin, combien de temps par semaine tu passes au camping?
Alors, moi, je donne en fait 5 jours de cours ici. Ça représente 13 heures de cours, plus des stages le dimanche, et une fois par mois. Et voilà.
Donc ça veut dire pour toi que la fermeture du camping, c'est aussi la fermeture d'une partie de ton emploi du temps qui est quand même très importante, puisque tu passes beaucoup de temps ici.
Complètement, oui, c'est mon activité principale.
Voilà. Donc comment est-ce que, toi et tes élèves, vous vous êtes sentis concernés et impliqués dans la fermeture?
On est complètement, complètement impliqués dedans, puisque à partir du moment où on quitte le lieu, d'abord, l'avenir, on ne le sait pas. Hein, les conditions sont complètement différentes d'accueil ailleurs. Et puis quitter ce site-là, on avait trouvé un endroit idéal ici, hein, au niveau du site, pratique de yoga, ça demande du calme, du silence, de la nature. Les gens qui viennent prendre des cours ici, ils arrivent de la ville. À partir du moment où ils passent la porte de la forêt, ça y est, ils sont déjà à moitié dans le cours de yoga, donc c'était un lieu idéal. Donc c'est très mal vécu par l'ensemble des élèves, bien sûr.
Est-ce que les élèves se sont eux-mêmes mobilisés dans le collectif?
Oui, ils se sont mobilisés. Dans le collectif, oui, ils sont venus aux réunions. Il y a eu pas mal de gens. J'étais très surprise agréablement, puisque au conseil municipal, ils étaient présents aussi. Et puis, il y a eu des mobilisations de signatures, de pétitions sur les marchés, enfin, etc. Voilà.
Et justement, pour la suite, est-ce que la situation est similaire avec Michel et l'association des musiciens? Est-ce que vous avez fait une demande à la municipalité pour la suite en disant, aujourd'hui, on va, à partir du 31 décembre, on va plus avoir de lieu pour pouvoir gérer notre activité et pouvoir la faire vivre? Qu'est-ce que vous nous proposez d'autre? Est-ce que vous avez fait ce genre de démarche ou pas?
Oui, moi j'ai fait une démarche tout au début, hein, je crois que moi je l'ai su fin septembre, début octobre, j'ai commencé déjà à chercher quelles solutions je pouvais trouver déjà pour assurer la continuité de mes cours, parce que c'est quand même quelque chose que je dois à mes élèves, vu qu'ils s'inscrivent en septembre jusqu'en juin. Or, l'annonce a été faite, alors qu'on l'avait demandé en juin, elle a quand même été faite que fin septembre, donc nous on avait déjà inscrit, moi j'ai des élèves inscrits pour l'année. Donc j'ai fait une démarche auprès de la mairie, mais en tant que privé, la mairie ne peut pas me mettre à ma disposition une salle municipale, puisque je ne suis pas associative.
Il faut dire que pour les associations, entre parenthèses, ils en mettent rarement à disposition.
Oui, enfin bon, là je ne sais pas, mais en tout cas la situation la voilà. Et que... Voilà, donc je ne sais plus ce que je disais.
Oui, la possibilité, en fait, pour la suite, d'avoir un autre lieu d'activité pour le yoga. Est-ce que tu disais que déjà, début octobre, tu avais commencé à prospecter pour savoir où tu allais pouvoir t'installer?
Voilà, donc j'ai fait une demande directe à la mairie en expliquant ma situation, ce que j'avais espéré développer ici et où j'en étais. Et j'ai demandé donc à ce qu'il y ait une prolongation jusqu'en juin au moins, en minimum. Je pense que c'était quand même assez... ça me paraissait logique. Et, ou alors qu'ils me proposent un lieu, mais correspondant, avec des qualités correspondantes à ici. Donc, voilà.
Non, parce que c'est vrai,
alors, je suis en attente, mais, là, pour le moment. Hein,
comme tu disais qu'en tant qu'entreprise de privé, tu ne pouvais pas avoir une réponse de la municipalité. Pardon. Ouais. Mais, je ne sais pas, par... un minimum de courtoisie, pour, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais vu qu'ils amputent complètement ton activité, alors que justement ils avaient été sollicités, qu'ils savent que ça existe, ce serait la moindre des choses que malgré tout te fournissent une alternative jusqu'à juin.
Voilà, alors ça par contre, côté mairie, dans des circuits normaux, si vous voulez, ça n'a pas fonctionné. Par contre, au niveau de l'administration et de la liaison administrative avec le camping, là, la proposition a été faite de... ils vont me proposer quelque chose. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, j'ai donc entendu dire qu'une réunion, aurait lieu avec les associations, donc je te dis ça pour toi aussi, pour trouver des solutions. Voilà. On attend.
D'accord. Ben, écoute, on espère que ça va se débloquer pour toi. Merci Lydie. Hein, tu restes autour de la table si tu le souhaites pour intervenir ultérieurement. Et on écoute un second morceau. Capital Radio One, c'était The Clash sur Radio Apple Pie, un morceau qu'on n'a pas choisi pour rien bien sûr, d'abord parce que The Clash était un groupe extrêmement militant et qui lui aussi a soutenu de nombreuses causes, notamment avec tous les problèmes d'immigration à Londres, en Angleterre en général à l'époque, qui a parlé de Brixton avec aussi les problèmes de logement, de poll tax, ça rappellera peut-être à quelques-uns des souvenirs. Et puis forcément Capital Radio, c'était l'occasion de parler d'une radio qui était hors territorial et qui émettait pour raconter des choses rebelles. Alors on est toujours donc dans le café du camping de la forêt de Monjon pour cette journée portes ouvertes. Nous venons d'apprendre que malheureusement les amis de Droit Logement de Rouen qui voulaient participer à cette table ronde n'ont pas pu se rendre disponibles, mais bon, ce n'est que partie remise. En revanche, on lui passera la parole tout à l'heure, Josette, du camping de Saint-Jouin-de-Bruneval, aura, je pense, pas mal de choses à nous dire sur une situation différente, mais hélas, concernant aussi une fermeture. Et puis, nous sommes avec Noémie. Alors, Noémie, toi, tu es travailleuse et résidente au camping. Peut-être tu peux nous expliquer depuis combien de temps, comment, tout ça.
Oui, alors bonjour. Je suis bien en déplacement, mais je ne suis pas résidente, hein, puisque c'est un terme que la mairie aime bien prendre, comme résident, ça veut dire résident permanent.
Autant pour moi.
Nous sommes des gens en déplacement, donc nous touchons une certaine somme de nos sociétés pour nous loger. Donc ces sommes, ce n'est pas un secret, c'est entre 40 et 70 euros par personne 7 jours sur 7. Et donc quand on pense que 40 euros pour se loger à l'hôtel et surtout se nourrir correctement, ce n'est pas suffisant. Donc la facilité pour nous, c'est de nous déplacer en caravane et de loger dans les campings.
Quand tu es en déplacement pour ton travail, tu habites ici et ça se fait depuis combien de temps ?
Ben moi, je suis en déplacement à peu près depuis 15 ans, donc je fais aussi bien l'étranger que le national. Et il faut savoir aussi que nos sociétés nous donnent des ordres de mission pour venir sur les différents chantiers dans toute la France et que l'on est obligé de déclarer à l'URSSAF un domicile fiscal et un domicile chantier. En disant ça, je réponds à Mme Valtou qui nous a dit qu'au-dessus de 99 jours, on était obligé de nous mettre dehors. C'est faux puisque justement nous payons nos impôts chez nous en fiscal et nous sommes en déplacement déclaré à l'URSSAF par nos sociétés sur justificatif. C'était une petite parenthèse que je voulais faire à Mme Valtou.
Peut-être pourrais-tu pour nos audinotes à Vray et voir ailleurs en France nous préciser qui est cette dame en l'occurrence.
Alors c'est la dame qui a plus ou moins, je vais pas dire décidé, c'est pas le terme puisqu'elle a dû quand même en référer sans doute au conseil municipal de la fermeture du camping.
Qui est en l'occurrence comme fonction adjointe
16e adjointe, je crois, j'ai dû lire ça. D'ailleurs, cette personne, je l'ai rencontrée avec une autre personne du camping, ainsi que M. Delamère, pour justement discuter un petit peu de l'avenir des travailleurs. Et la seule réponse qu'ils ont su nous donner, c'était qu'il y avait des logements disponibles pour tous les gens en déplacement à la maison de la mer. Je rappelle que la maison de la mer, les chambres les plus petites font 42 euros. Donc, on sait déjà à peu près où est-ce qu'ils veulent nous envoyer, quoi.
Non, puis c'est ce qu'on précisait aussi tout à l'heure, c'est que c'est quand même un choix de vie aussi en tant que salarié en déplacement que de vouloir vivre dans un camping le temps qu'on est en déplacement. Donc,
Tout à fait.
C'est pas du tout une solution de remplacement.
Tout à fait. Lors de la première intervention de FR3 sur le camping, j'ai été filmée par la télévision et j'ai expliqué que pour moi, personnellement, sachant que j'ai un poste assez important et je gagne bien ma vie, c'était un choix personnel de venir en camping plutôt que de rester seule dans une chambre à regarder la télé puis aller manger au restaurant, quoi. C'est un choix de vie aussi. Mais il faut savoir qu'il y a des travailleurs qui n'ont pas les moyens. Et pour eux, c'est vital de pouvoir avoir un camping pour se loger et surtout se nourrir correctement.
Pour en revenir à toi, justement, ça serait intéressant si tu peux bien en parler. Pourquoi tu as fait ce choix de travailler en déplacement, d'aller de chantier en chantier? Bon, là, déjà, tu nous as expliqué au niveau de vivre, de rencontrer des gens, mais si tu veux bien nous raconter ça.
Côté travail, hein, ouais. Oui, c'est un choix. Bon, c'est... C'est pour évoluer, pour faire de... Enfin, je fais un métier d'homme, mais...
Qui consiste en quoi?
Je suis un appui technique pour les démarrages de centrales, c'est-à-dire que je suis ingénieur de permanence.
D'accord.
Aussi bien en nucléaire qu'en technique, enfin qu'en thermique, comme ici au Havre, quoi. Donc, voilà.
La mobilité, c'est quelque chose qui était important pour toi de toute façon, parce que...
Pour moi, c'est un besoin, quoi. Ouais. Donc, moi, si je reste à la maison... plusieurs semaines ou plusieurs mois, ça va pas, quoi. Donc, j'ai besoin de voir du monde et puis de découvrir un petit peu les nouveautés, les nouvelles régions ou les nouveaux pays qui se présentent à moi, quoi.
Tu circules beaucoup, enfin, je sais pas, tu peux peut-être nous donner quelques exemples de chantiers.
J'ai fait pratiquement tous les chantiers de toutes les centrales nucléaires de France que je connais, donc.
C'est une vie à haut risque que tu mènes. Enfin, alors.
Si on veut, oui. Sinon, je suis allée au Mexique aussi pour EDF, donc. Plusieurs chantiers dans ce style-là, quoi.
Et justement, enfin, de manière générale, à chaque fois que tu es en déplacement, tu te loges en camping systématiquement.
Ça fait 5 ans. Avant, j'étais toujours en gîte ou en hôtel, mais ça devenait très très pesant. Et il faut savoir que les gîtes, il faut soit le prendre avec des collègues. Bon, il y a très peu de collègues féminins, donc c'est pas évident. Et les hôtels, c'est très impersonnel, quoi. Donc depuis 5 ans, j'ai acheté une caravane et je fais tous les campings avec ma caravane sur les chantiers qui se présentent.
Et particulièrement sur le camping de Monjon, est-ce que c'est la première fois que tu vois ce genre de lieu de vie? Parce que c'est pas uniquement, donc on le répète, un lieu où on vient juste se loger, planter sa tente ou emmener sa caravane. C'est aussi un lieu qui vit avec des activités. Est-ce que tu as déjà vu ça autre part?
Très très peu, non. Je crois que c'est, je vais même pas dire peu, je crois que c'est la première fois où je vois qu'il y a des associations et qu'il y a une vie dans la vie du camping en fin de compte. Je suis arrivée au mois de mai, donc au mois de mai il y avait déjà les vacanciers, les touristes aussi bien étrangers que français, plus ces associations. Et bon, il y avait un regroupement quelque part qui se faisait ici à l'intérieur de ce café et un échange très très intéressant entre les différentes personnes.
Donc forcément, toi, en tant que travailleuse extérieure qui loge ici en caravane, tu as ressenti...
Je suis frustrée du fait que ça ferme. Et puis bon, depuis que j'ai appris la fermeture, j'essaye de me battre avec les peu de moyens que j'ai, sachant que je finis bientôt. Je voudrais pas partir sur une défaite, quoi. Donc... Mon but, c'est que ça, bon, ça restera peut-être pas ouvert, mais de le faire savoir que c'est pas normal qu'on ferme un camping, aussi bien pour les travailleurs que les activités ou les associations.
Est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler avec d'autres travailleurs qui sont des gens de l'extérieur et qui résident en camping?
Oui, on en parle entre nous avec les travailleurs qui sont encore sur le camping à l'heure actuelle, et je crois qu'on se serre tous les coudes pour réussir à faire quelque chose ou à se faire entendre.
Vous êtes combien de personnes en ce moment
Je ne peux pas dire, il faudrait demander à Frédéric qui est peut-être plus au courant que moi.
Frédéric vient nous donner la réponse. Viens sur le mien.
Là, je crois qu'il reste à peu près 25 personnes. Mais normalement, à cette période de l'année, on est à peu près entre 50 et 60. Donc depuis l'annonce de la fermeture, eh ben, tout le monde s'en va petit à petit.
Ah ouais. Donc tout le monde s'en va, ou bien des gens n'arrivent pas, justement. Des gens qui ont connaissance de la fermeture prochaine du camping, du coup, ne viennent pas, puisqu'ils savent qu'ils vont être là pour plus longtemps que la date prévue de fermeture, donc ils ne prennent pas l'engagement de venir ici.
C'était ça.
Je voudrais préciser une chose, il faut savoir que au Havre, il va y avoir Port 2000 et il va y avoir la construction d'une nouvelle centrale thermique, et ça va créer beaucoup d'emplois et beaucoup de gens en déplacement vont venir. Donc il va falloir savoir les accueillir ces gens-là.
Oui, parce qu'indépendamment du fait de dire que aux gens de mer ou ailleurs ça peut être un petit peu cher, est-ce que l'espace est suffisant au niveau, enfin est-ce que les structures d'accueil existent?
Non, il n'y aura pas assez. Puis même financièrement, les gens ne pourront pas se le permettre. Bon, certains intérimaires touchant 40 euros, ils ne peuvent même pas aller se loger, quoi. Donc, il ne leur restera plus qu'à dormir dans leur voiture ou à plusieurs dans une chambre. Et c'est pas normal.
Non, bien sûr.
Voilà.
Noémie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose qu'on pense pas forcément? Toi, les questions, elles viennent un petit peu au fur et à mesure en vous écoutant les uns les autres. Alors,
je crois que j'ai fait un résumé de ce que je pensais, et puis je crois qu'il faut continuer à se battre et tous aller à la mairie le 15 novembre. Voilà.
Je te remercie.
Merci.
Tu interviens quand tu veux, comme tous les autres, hein, auxquels on l'a déjà dit tout à l'heure. On va accueillir Josette. Bonjour, Josette.
Bonjour, moi je suis Josette, je représente les gens de Saint-Jouin qui sont tout de suite en état un petit peu dépressif avec ce qui leur arrive sur le nez. Et puis voilà. Donc on se bat énormément. Enfin, moi je me bats énormément parce que j'estime quand même qu'ils ont été lésés, usés, et puis la responsabilité ressort bien de quelqu'un. Sachant que le maire de Saint-Jouin ne connaît pas ses habitants encore au conseil municipal de mercredi.
Alors attends, parce que voilà, on t'a gardé un petit peu pour la fin, bon, même si l'émission n'est pas encore terminée, parce que c'est quand même un cas assez différent. Hein, on va expliquer pour les auditeurs ici dans le bar et puis pour nos audinotes sur Internet. Ce camping de Saint-Jouin, depuis combien de temps habitez la plupart d'entre vous? Dans quel type d'habitat? Avec quel contrat? Enfin, c'est toi qui va nous expliquer tout ça, si tu veux bien.
Oui.
Je te demanderai de parler bien dans le micro, parce que...
Très stressé. Il y a des gens qui habitent dans le camping en permanent, sachant qu'ils sont déclarés en permanent, puisqu'ils payent des impôts sur Saint-Jouin, au niveau de crypto. Pas de taxes d'habitation, ni de redevance RTF, parce que monsieur l'ancien directeur du camping ne s'est pas chargé de les déclarer. Donc, d'accord, impossible de payer une taxe d'habitation. Il aurait fallu qu'il soit déclaré légalement, quoi. D'accord. Donc, il y a quand même des gens qui sont depuis 11 ans dans ce terrain de camping, 6 ans, 7 ans, même 2 ans, encore l'année dernière, et peut-être même moins encore, des mobilhomes qui leur ont été vendus à l'année, pour y vivre à l'année. Même les douaniers du Havre ont des déclarations à l'année. Et pourtant, ils ont des résidences.
Donc, en fait, voilà, ce qui est un petit peu compliqué, et nous-mêmes, alors là, pas de juriste autour de la table, et nous-mêmes, on est loin de connaître toutes ces questions légales. On entend diverses choses par rapport aux possibilités de résider ou non à l'année dans un camping. Bon, on reviendra pas là-dessus. Peut-être qu'on pourra mettre les détails. Enfin, si tu sais des choses précises, tu peux nous le dire. Hein. Mais on pourra mettre des détails sur notre site. En revanche, ce qui est sûr, c'est que vous, apparemment, à Saint-Jouin, vous avez eu des problèmes directement, d'une part avec la mairie, d'autre part avec les différents responsables de ce camping. C'est ça, non ?
Voilà, oui. Le camping ayant été vendu au 15 avril... le changement de gérant au 15 avril, sachant que le nouveau propriétaire a acheté que le fonds de commerce et que les murs restent toujours à l'ancien propriétaire, ce qui est grave parce qu'il y a tellement de conformité à mettre dans ce terrain de camping qu'on se demande est-ce que légalement, est-ce que ça va être fait ? Un camping 3 étoiles comme c'est, avec des installations électriques comme il existe, c'est pas possible qu'un camping puisse rester 3 étoiles. De toute façon, il n'aurait jamais dû avoir 3 étoiles. Moi, je comprends rien.
Et concrètement, vous êtes combien de personnes concernées par ce problème de devoir peut-être partir, de devoir être obligé de vendre des choses que certains ont achetées relativement chères quand même ?
Alors, on était 11 personnes, sachant que il y a une personne qui a trouvé qui a signé un compromis de vente, qui a 50 et quelques, 52 ans, je crois. Il a acheté, il s'est engagé jusqu'à 77 ans. Pour acheter une maison de l'autre côté de l'eau, parce qu'ici, impossible. Donc là, c'est grave aussi, parce que est-ce que la vente sera signée ? Ça, on ne peut pas le savoir, hein, non plus. Une autre personne qui a trouvé par son employeur d'un relogement avec le CIL, mais c'est pareil, le logement, c'est dans le quartier de l'Eure, dans un très bas loyer, ça veut dire sûrement pas ce que cette dame espérait, quoi.
Pas les mêmes qualités de toute façon que la vie au camping.
Non, en plus, une dame qui est très malade, hein, qui a un cancer, donc elle va finir sa vie dans un blocos. Moi, j'appelle ça des blocos. Donc voilà comment elle va finir sa vie. Une autre personne, qui est très malade aussi, malheureusement, on lui laisse jusqu'au 31 décembre. Ça veut dire que les autres, alors donc après il en reste 6 ou 7, les autres ne seront pas expulsés avant le 31 décembre puisqu'on a laissé l'eau à une certaine personne, mais comme les canalisations sont pour tout le monde, donc on ne peut pas nous couper l'eau.
Ouais, alors on va y revenir. C'était plutôt des personnes seules, des couples, des familles ?
Donc, il y a un couple, les autres sont souvent des cas de personnes, des divorcées qui ont du mal à accepter un divorce, ou des gens qui sont dans le besoin aussi, qui n'ont pas des grosses retraites, et puis donc, des gens qui n'ont pas d'autre solution que de trouver cette...
Voilà, oui, Fabienne d'Agir contre le chômage en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a à la fois une qualité de vie à vivre en camping, parce que ça peut être...
Et c'est leur choix de vie aussi,
agréable.
Il y en a qui ont choisi, gagnent bien leur vie et qui ont choisi ça.
Voilà,
hein.
Il y a deux cas complètement différents, en fait, qui peuvent être liés aussi, mais c'est-à-dire que... On peut se retrouver en ayant travaillé toute sa vie, avoir des revenus faibles, justement, comme tu disais,
des
à la suite d'un divorce, d'une retraite, d'un licenciement.
Chaque personne a son corps.
Investir en se disant, ma foi, au moins là, je serai avec d'autres personnes dans un cadre pas trop désagréable. Et puis tout d'un coup, donc, la décision arrive, c'est terminé.
Voilà.
Et tu parlais de l'eau. Alors, dans une réunion, il avait été dit que l'eau avait été coupée pour certains d'entre vous il y a déjà un mois, je crois.
Qu'elle devait être coupée, en fait. Elle devait être coupée au 31 octobre.
Oui, on avait reçu une lettre commandée nous disant que nous coupions l'eau le 31 octobre. Donc, après, bon, le courant, on pouvait l'avoir soi-même puisqu'on a tous les compteurs indépendants. Mais comme il y a une personne qui est très malade, qui est en fin de vie, on lui a autorisé de rester jusqu'au 31 décembre, sachant que le 31 décembre, je le vois mal arriver pour lui, ils ne feront pas de mal à l'expulser, celui-là. Donc, ça, ce qui est grave. Donc, s'il laisse l'eau au 31 décembre pour les autres, celui-là, il est obligé de le laisser pour les autres. C'est les mêmes canalisations. Ça sent que le gérant, il n'est pas là. On est tout seul dans le terrain, hein, aussi.
Ouais.
Bon, jusqu'à maintenant, ça s'était toujours passé comme ça. Le jour qu'il n'y aura plus personne, qu'est-ce que ça va devenir, le terrain ?
Vous avez été... il y a eu un conseil municipal à Saint-Jouin la semaine dernière, je crois.
Mercredi, qui était
mercredi
très chaud,
dernier.
Oui.
Vous y êtes allé. Comment ça s'est déroulé ?
Pas trop bien, parce que monsieur le maire, on n'assume pas ses responsabilités. On sait aussi qu'il y a des logements qui peuvent être rénovés dans Saint-Jean, une ancienne école, que monsieur le maire ne veut pas faire l'effort non plus. Ça ne coûterait pas très très cher de mettre du placo, de l'électricité, un peu de fil électrique. Ça ferait quand même 4 personnes de reloger si c'était vraiment fait honnêtement. Mais le maire ne peut pas ignorer qu'il a des gens depuis 11 ans dans le terrain.
Et lui, il dit le contraire. Il dit qu'il ne sait pas.
Ah non, il l'a su depuis le mois de mars 2006 au recensement. Mais pourquoi il n'est pas venu le dire? Pourquoi il n'est pas venu le dire? Seulement, ces gens-là, leur carte d'électeur, ce qui est grave, c'est qu'ils ont leur carte d'électeur. Votez pour qui, votez pourquoi maintenant? Quand on est défendu par ça, c'est même pas la peine de voter. Hein.
C'est sûr.
Bon, bah ouais, oui. On va faire. Mais de toute façon, je lui ai bien dit qu'au 31 décembre, on n'a plus d'eau. Il y a le gymnase qui est libre. Hein. On ira se laver là-bas. Ça, il...
Donc vous avez décidé de tenir bon pour l'instant.
De toute façon, on ne bougera pas. Soit qu'il faut qu'ils soient indemnisés de leur mobilhome, c'est pas le tout de leur trouver des logements. Mais qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans? Ils ont rien à mettre dedans. Et comment ils vont payer les 3 mois de caution? C'est leur investissement, c'est leur maison. Dites-moi comment ils vont faire. Eux, ils sont prêts à partir dans un logement puisqu'ils n'ont pas le choix. C'est une loi qui date de 93. Mais celui qui a fait l'erreur, qui paye, qui les indemnise et après ils vont partir. Ils vont pas embêter l'autre.
Donc vous avez lancé des plaintes, des...
Oui, voilà. On a pris un avocat qui est très au point. On a fait les demandes d'aide judiciaire parce que beaucoup ont l'aide judiciaire aussi, savoir. Et puis donc il y a contre l'ancien propriétaire, malheureusement, si il lui ne veut pas assumer, il va bien falloir que quelqu'un se...
Donc, oui, il faut un interlocuteur.
On fait foi par la justice et tout. L'expulsion, de toute façon, notre avocat ne bougera pas, comme le dit l'avocat, ne bougera pas. Il faut impérativement qu'on aille un huissier qui vienne constater comme quoi on n'est pas dans les règles. Et après, ça passera par les tribunaux pour l'ordre d'expulsion. Alors, je vous dis qu'on peut durer encore un petit bout de temps dedans. Donc, c'est pour ça que la presse ne nous bouscule pas trop. Mais aussitôt, la presse est toujours là, elle notre écoute. Et heureusement qu'on a médiatisé.
C'est vrai qu'il y a eu une forte médiatisation de ce qui s'est passé. Voilà, tout à fait. C'est un petit...
C'est un petit comité,
mais un petit comité qui est très actif et qui bouge énormément. Donc c'est,
moi, je ne suis pas trop concernée. Moi, j'ai mon appart, mais je me bats quand même pour des gens qui partent en chimio une fois la semaine, qui sont là que... Puis s'il n'y a personne pour les aider dans leur démarche administrative, eh ben, ils n'ont plus qu'à partir. Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi ils vont vivre? Moi, je connais bien les situations de chacun. Je vais vous dire que monsieur le maire me dit qu'il n'y en a que 2 personnes qui pourraient être relogées, qui dépendent des sociaux. Mais je lui ai répondu, c'est parce que monsieur le maire, vous ne les connaissez pas, parce qu'ils ne sont jamais venus chercher un morceau de pain à la mairie, un bon d'achat ou quoi que ce soit. Et parce que là, il aurait peut-être connu les gens quand même.
Et même si les cas sont, on le voit, assez différents entre le camping de Saint-Jouin et le camping de Monjon, vous avez été les uns les autres solidaires assez rapidement?
À Monjon, oui, parce qu'on nous a appelés pour venir. La preuve, c'est que je me suis encore dérangée aujourd'hui, mais je suis contente quand même qu'on a des personnes qui viennent nous défendre aussi au conseil municipal, parce que on a eu l'appui du DAL quand même, et qui doit pouvoir mettre en responsabilité le maire, même si c'est un camping privé. Je pense que le maire doit pouvoir s'assumer. On a un maire qui est pas très avec l'usine à gaz qui arrive, un camping fermé et les grands déplacements qui vont arriver. Je ne sais pas où est-ce qu'on va les mettre. Aussi, parce que encore mercredi soir, les camping-cars étaient sur le parking de la mairie à dormir. Voilà. Alors, Josette, si tous les campings ferment comme ça, c'est même ici. Moi, je pense qu'avec l'usine à gaz qui va se faire, parce que ce qu'on veut ou qu'on ne veut pas, je pense que c'est déjà prévu par le port autonome. Donc, le camping, il faut bien aussi que ça reste ouvert pour que les gens en déplacement puissent venir.
Se loger.
Parce qu'à Saint-Jouin, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas un hôtel, il n'y a rien du tout. Où est-ce que vous allez les mettre? C'est le haut de la falaise.
Non.
Donc il faut voir ça aussi dans ce sens-là.
Josette Entremercy, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, à part l'appel bien sûr à vous soutenir et aller au conseil municipal et...
Non, on attend le prochain conseil pour mettre un petit peu de piment là-dedans, en espérant que les conseillers vont avoir pris cause de ça, parce que aucun cahier de sécurité, rien n'est en règle là-bas, et ça c'est grave.
Écoute, vous pouvez continuer à nous tenir au courant. En tout cas, on pourra mettre des informations sur notre site.
Il n'y a pas de souci.
Puis, on te remercie. Voilà. Je pense qu'en fait, du coup, l'émission va toucher à sa fin parce que on a fait déjà un bon tour de table. Claudine, je pense que tu voulais intervenir, dont on accueille avec plaisir où tu veux. Prends le micro de Josette, puisqu'il était ouvert.
Donc, Claudine, de l'association...
Éducatrice de sport éducatrice de sport en milieu associatif. Voilà, donc j'ai rencontré le camping et les animatrices du camping il y a 2 ans environ, mais tous les vendredis matins, je viens faire de l'oxygénation pour des retraités sportifs havrais et de la région havraise. Donc je connais bien et je connais aussi les problèmes. Il n'y a pas de pipi-bar ouvert pendant... Ça fait 20 ans que je viens, donc je suis au courant. Il n'y a plus d'abri parce qu'il y a un espèce d'abri à côté des animaux là qui est toujours en train d'être réparé. Donc en fait quand il pleut des cordes, eh ben ça nous arrive de venir là, sauf que maintenant on trouve fermé. Et alors donc j'ai rencontré les animatrices, notamment Frédéric, et donc on a organisé une conférence sur la santé. Le sport et la santé sont liés, et donc monsieur Tassery, médecin du sport au Havre, est venu faire une conférence dans une salle. Et donc moi dans mes projets j'avais envisagé de revenir avec monsieur Tassery ou d'autres médecins régulièrement, une fois par année scolaire, disons on fonctionne à l'année scolaire. Et je suis vraiment déçue parce que à la ville du Havre aucune salle n'est disponible et de toute façon ça coûte trop cher. Par conséquent j'avais trouvé enfin quelque chose et là je suis vraiment déçue. Alors j'habite à Épouville et je voudrais dire que ma famille n'est pas d'ici, et quand ma sœur, ma belle-sœur, etc. vient, eh bien ils viennent en caravane. Et alors donc ça c'est à titre individuel quoi. Donc en fait si Saint-Jouin est fermé, le Tilleul n'est pas ouvert souvent. Moi je parle des campings. J'habite à Épouville, il n'y a pas de terrain de camping. Donc comment va-t-on faire? Parce que dans les familles, quand on est beaucoup, on n'a pas forcément les moyens d'aller même au Formule 1. Et donc on avait trouvé que la caravane ou le camping c'était un moyen intéressant. Donc c'est ce qu'elle faisait jusqu'alors, mais là que vont-ils faire? Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas originaires du Havre comme moi, puisqu'on est venu par ici pour des raisons de travail. Enfin, ça fait un bout de temps que je suis là, ça fait 30 ans. Mais quand toutes les personnes viennent d'autres régions, où vont-elles aller? Parce que les Formule 1 c'est pas convivial, et puis ça coûte cher quand on est nombreux quand même. Donc moi je trouve que c'est désolant et navrant, hein, donc voilà.
Tu fais bien d'en parler, Claudine. Non, mais merci beaucoup pour ton intervention. D'autant qu'effectivement, on avait abordé le problème des travailleurs, le problème des employés, le problème des étudiants. Bon, il n'y en a pas eu pour témoigner là. Peut-être qu'on reviendra sur cette question, puisqu'on veut beaucoup parler de logement cette année sur Radio Apple Pie. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de rencontrer les étudiants. Et c'est vrai qu'on n'avait pas abordé le fait qu'aussi un camping, c'est aussi, oui, bien sûr, un lieu où les gens peuvent venir en vacances. Et ça va forcément beaucoup manquer. Merci, Claudine. Bah, maintenant, on va vraiment remercier tout le monde. Particulièrement, bien sûr, l'équipe du camping, Frédéric en tout premier lieu, Christine. Merci à tout le monde, merci à tous les employés d'ici, à tous ceux qui ont pris la parole au micro. Donc, Michel pour la musique irlandaise, Lydie qui est professeure de yoga.
Noémie pour les travailleurs.
Josette de Saint-Jouin. Merci beaucoup à Ginette aussi pour son intervention, en tant que personne qui vient régulièrement dans la forêt et au café.
Et puis rendez-vous au prochain conseil municipal, aussi bien au Havre et à Saint-Jouin, qui se tiennent mercredi prochain à 17h30 pour le Havre, et qui se tient à quelle heure pour Saint-Jouin? Et ben on va se renseigner, et voilà. Puis les informations seront en ligne sur le site. La mobilisation continue. Et on appelle évidemment tous les audinotes et tous les gens dans la salle à venir soutenir les gens du camping.
Voilà. Et bon, merci à tous. Et si on a oublié de citer des associations, des collectifs, voilà, au micro, vous inquiétez pas, la liste complète de tous ceux qui sont mobilisés pour défendre le camping seront sur notre site. Voilà. Et ben, à bientôt. Bonne continuation.
رابط في السنتر فين كانت بنا ولا حنج استنى في راس المال
نكروا كان السلطات طلعوا في الطيارات وفي العيد عاد سمعوا